Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle avec Éric N. Duhem. J'ai bien dit N, un chercheur qui s'est penché sur la dérive du recrutement d'étudiants étrangers au collégial. Mais d'abord, il sera question du sujet qui a monopolisé ce matin la période de questions à l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
L'opposition libérale a bien essayé ce matin de faire dire à la ministre André Laforêt, qui est ministre de l'Habitation, qu'il y avait une crise du logement au Québec. On en discute avec Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. Bonjour.
Bonjour Antoine Robitaille.
Du Parti libéral du Québec, évidemment. Dites-moi, pourquoi c'est important que le gouvernement reconnaisse qu'il y a une crise du logement?
Parce que quand on reconnaît qu'il y a une crise actuellement, ben on met des méthodes en place pour mettre fin à la crise. Et on est dans une crise du logement, là, puis c'est une crise du logement sans précédent, avec un taux d'inoccupation à son plus bas là, depuis 15 ans. La crise du logement est là, elle est juste pas reconnue par le gouvernement de la CAQ. Mais ce que je dirais, c'est que la crise du logement, on la reconnaît là, sur trois volets. Là. C'est palpable là, sur le terrain. Là. C'est vraiment palpable. L'accès à la propriété, l'accès au logement abordable, puis le logement social. C'est les trois volets principaux là, sur lesquels il y a définitivement une crise du logement.
La ministre vous a répondu, quand elle est arrivée en poste, il y avait 15 000 logements sociaux annoncés qui ont été non construits. Est-ce que c'est pas vrai que ça n'aurait pas dû être fait avant?
Nous, ce qu'on a annoncé, c'est en moyenne 1 300 à 2 000 logements abordables par année. Puis qui ont été réalisés, là, d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait. Dans les 22 dernières années, là, il y avait en moyenne 2 000 logements abordables par année de réalisés. Bien sûr, il y avait j'aime pas le terme anglophone, là, mais un backlog, là. Il y avait une réserve.
Si on peut
utiliser ça comme ça, là, mais il y a des motifs, là, il y a des raisons, là, pourquoi s'accumulaient, là, certains logements qui n'ont pas vu le jour, là, mais le financement était là. Mais il manquait soit des autorisations. Fait que c'est vrai qu'il y en avait des logements sociaux annoncés, mais qui n'ont pas été construits. Cependant, la promesse de la CAQ en 2018, c'était de livrer les 15 000 logements annoncés non construits restés dans les livres, ce qui n'est pas fait. Les deux premières années, là, il n'y a eu aucune nouvelle unité en deux ans.
Ah oui.
C'est zéro, là, rien. Là. Financer rapidement des nouveaux logements dans le programme Accès Logis, là, c'est quelque chose de facile et il n'y a eu rien, aucune nouvelle unité depuis deux ans.
Mm-hmm.
C'est vraiment préoccupant, puis c'est sûr qu'on prend du retard, puis ben là, c'est ça. Ça se fait sentir sur le terrain, puis ça se fait sentir.
Pourtant, la ministre répond, nous, on construit. On a annoncé encore 410 millions dans le dernier budget. On a annoncé dans le récent budget 250 millions pour encore des nouveaux projets qu'on va faire lever de terre. Est-ce qu'elle ment?
Bien, clairement, là, les deux premiers budgets ont été muets quant à l'accroissement de l'offre de logements abordables. Il y avait zéro, rien, rien. Là, il y a eu l'entente fédérale, l'entente là, Canada-Québec qui a été signée en octobre dernier. L'entente qui est signée va couvrir la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028. Donc, les annonces qui sont faites, c'est dans le cadre de cette entente-là. C'est un montant de 1,8 milliard fédéral, puis le provincial en met autant. Mais l'entente, là, elle a été signée avec 33 mois de retard. Ces 33 mois, le gouvernement de la CAQ n'a absolument rien fait. Là. Imaginez le dommage qu'on vit sur le terrain, là, c'est l'inaction caquiste.
Elle avait répondu, la ministre André Laforêt, dans une entrevue, qu'elle connaissait elle avait des amis courtiers, donc elle était bien placée pour comprendre la situation. Elle s'est un peu dédiée aujourd'hui en disant qu'elle avait consulté aussi des économistes. Qu'est-ce que vous aviez pensé de cette question-là, puis de sa correction aujourd'hui?
Mais tu sais, moi, j'ai senti aujourd'hui, là, je pense qu'elle a eu 9 questions en habitation aujourd'hui. Elle s'est levée 9 fois là, pour répondre aux questions, à nos préoccupations relativement à l'habitation. Parce que j'ai senti que, évidemment, le ministre qui était sur la défensive et qui voulait nous montrer qu'elle était compétente en habitation.
Oui.
Moi, ce que je dis, moi, je soulève ma préoccupation par rapport à ce que je vois sur le terrain, par rapport à ce que j'entends. J'imagine qu'on entend la même chose. Les courtiers, là, ils font ce qu'ils peuvent pour protéger et conseiller leurs clients, mais le marché actuel est tellement hors contrôle. J'ai l'impression qu'il y a un manque de sensibilité là, de la ministre. Mm-hmm. Comme si la ministre, là, c'est beau là, qu'elle connaisse des courtiers, mais est-ce qu'elle connaît aussi des acheteurs?
Oui.
Parce qu'il faudrait avoir une certaine sensibilité à l'égard des acheteurs aussi.
Oui, c'est ça.
Je trouve ça préoccupant.
Mais quand un marché s'emballe comme ça, qu'est-ce que l'État peut faire exactement? Parce que c'est vrai que c'est un libre marché. Il y a ça quand même. Vous, qu'est-ce que vous suggérez?
Bien, il y en a plein de choses qu'on peut mettre en place. C'est mm-hmm. sûr que là, le délai de 3 ans a des effets directs négatifs. Et même si on dit on va en construire du logement social, là, le 1er juillet, c'est le même matin. Là. L'année passée, il y avait 354 ménages là, qui se ramassaient à la rue. Là, cette mm-hmm. année, on est en pleine crise. Ça va être pire. Là. Fait que même si on les annonce, ils ne seront pas prêts pour le 1er juillet prochain. Là. Fait que, oui, il y en a des solutions. Oui, il y en a des outils pour le gouvernement.
Marie-Claude Nichols, sur la surchauffe, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait rendre les inspections, par exemple, obligatoires? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on devrait ajouter, des éléments, des étapes qu'on devrait rendre obligatoires comme celle-là pour éviter que les acheteurs soient floués?
Eh oui, c'est certain. C'est certain qu'il faut mieux informer les acheteurs. C'est certain qu'il faut rendre obligatoire l'inspection. On vend sans garantie légale. Là. C'est vraiment incroyable. Il y a plusieurs petites méthodes, plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place. Le ministre des Finances là, il en connaît aussi. Carlos en a suggéré, notre ancien ministre des Finances en a suggéré. Il y a des bulletins qui peuvent mettre en place pour un crédit d'impôt, justement, qui inciterait les gens à faire inspecter la maison, parce que souvent les gens disent, ben là, au prix que je paye la maison, je ne la ferai pas inspecter, là, je coupe d'indépendance. Ben il y a des crédits qu'on peut faire où il y a un remboursement possible quand on fait inspecter notre maison. Donc oui, il y a plein de petits outils comme ça, tant pour l'accès à la propriété, pour le logement abordable, puis pour le logement social. C'est clair. Puis moi, je pense qu'on peut pas nier la crise du logement. Elle est là. Le gouvernement, la ministre de l'Habitation, elle a un rôle à jouer. Là, c'est sous sa responsabilité. Elle a un rôle à jouer. Un, reconnaître la crise, puis deux, qu'elle mette en place des mesures pour aider définitivement les familles.
C'est drôle, ça me fait penser à d'autres sujets, ça, la non-reconnaissance de la crise par le gouvernement. Je pense au racisme systémique. Ils veulent pas reconnaître, mais ça, c'est peut-être une question de terminologie et peut-être qu'ils ont des bonnes raisons aussi. Là. Après ça, il y a la pénurie de main-d'œuvre, hein, qu'ils veulent pas vraiment reconnaître aussi cette pénurie de main-d'œuvre-là. Puis, je pense aussi à la question de la récession qui revient. Je pense que chaque gouvernement évite de dire ce mot-là parce que ça crée la chose encore plus. Est-ce qu'ici, avec la crise du logement, on est devant quelle sorte de réticence? Puis si vous, qui avez déjà été dans l'équipe gouvernementale, pas directement dans le Conseil des ministres, mais dans le parti qui était au pouvoir, vous trouvez que ça ressemble à quoi parmi les exemples que j'ai donnés? Est-ce que ça pourrait engendrer plus de crises du logement si le gouvernement disait qu'il y a une crise du logement?
Ben moi je pense que non, au contraire là, le fait de dire que là j'ai l'impression qu'on fait c'est de l'aveuglement volontaire parce qu'on veut pas intervenir. Parce que c'est sûr que si on intervient, ça va déplaire à certaines personnes, là, ça c'est clair. Fait que moi j'ai l'impression que pour pas déplaire, on veut tout simplement pas intervenir. Moi je dis qu'il y a des gens qui sont il y a des gens qu'il faut protéger dans tout ça, c'est tout le temps les mêmes là, qui mangent la claque là, si vous me permettez l'expression là, mais c'est souvent les gens plus défavorisés, des gens qui doivent consacrer 55% de leurs revenus pour se loger, qui doivent couper dans l'épicerie pour pouvoir mettre un toit sur la tête de leurs enfants. J'ai l'impression que c'est un style d'aveuglement volontaire pour pas avoir à intervenir.
Qui ça déplairait, une intervention du gouvernement?
Ça peut déplaire... mais ça peut déplaire à plusieurs personnes. Là. Ça peut... les courtiers, je suis pas certain qu'ils apprécieraient que le gouvernement intervienne. Les gens sont, disons-le, là, habituellement, les gens sont réfractaires au changement, mais je pense qu'un gouvernement est là pour protéger aussi la population.
Bien, vous étiez...
Ça me préoccupe. Ouais. Ça me préoccupe. Savez-vous quoi? J'ai peur que le 1er juillet, là, on se ramasse avec une nouvelle classe de... Puis je vais le dire comme ça, là, puis c'est peut-être pas poli, là, mais j'ai peur qu'on se ramasse avec une nouvelle classe de sans-abri qui vont être des mamans monoparentales qui n'ont pas trouvé un toit. Puis quand je dis ça, là, j'ai le cœur en mille morceaux. Là. Mm-hmm. Puis tout le monde, on en connaît. Là. Tout le monde, on connaît. Moi, je suis chanceuse, j'ai une maison, là, mais il y a sûrement... on connaît tout le monde quelqu'un qui cherche un logement, soit de façon directe ou indirecte. Là, fait que
pour est-ce ça, que c'est dans les régions...
C'est pas juste...
métropolitaine ou est-ce que c'est en périphérie comme vous, dans le coin de Vaudreuil?
Bien, c'est sûr que c'est pire dans les centres urbains, tu sais, dans les la grande ville Montréal, Gatineau aussi, là, Gatineau, là, la surenchère, c'est pas loin de 20%. C'est sûr que c'est pire dans les grands centres urbains, mais il y a une problématique en région aussi. Là. Moi, Vaudreuil, je considère que c'est une région, bien qu'on soit à proximité de Montréal, mais j'ai beaucoup de territoire agricole, puis je la vis, la crise du logement, non? Je la vis, c'est clair, là. Puis il y a des beaux projets qui s'en viennent à Vaudreuil. Je donne l'exemple de l'hôpital, ça va être 3000 nouveaux emplois. On va les mettre tous, ceux qui veulent venir travailler à Vaudreuil.
Vous étiez en étude de crédit hier, c'est les crédits du ministère des Transports. Votre collègue ce matin, André Fortin, a dénoncé les non-réponses du ministre Bonnardel qui disait, par exemple, qu'il ne voulait même pas répondre sur le troisième lien ou sur le tramway de Québec. Il disait « Essayez même pas, je ne répondrai pas ». Vous avez subi le même genre de mutisme de la part du ministre, d'après ce que je comprends?
Oui. Ben, en fait, oui, ça, c'est une réponse plutôt vague là, pour me dire c'est quoi la prochaine question. Là. C'est un ministre qui est quand même assez habile. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Moi, j'ai posé des questions sur le parachèvement de l'autoroute 20. L'année passée, on est arrivé une belle proposition de le faire en deux phases. Le ministre s'était montré ouvert, m'avait dit créer un comité pour qu'on s'assoie pour regarder ça ensemble. Puis hier, quand j'ai posé ma question, on m'a plutôt parlé que des consultations d'une table mise en place depuis l'été 2010. Je sais, c'est moi qui l'ai mis en place de la table à l'été 2018 avec ma collègue Lucie Charlebois. On a siégé 5 fois, puis c'était plutôt des mesures pour éviter la circulation là, sur l'autoroute 20. Donc, je trouve ça dommage, ce genre de réponse-là. Mais c'est comme s'il était en crédit là, juste pour garder la tête hors de l'eau. Là, puis là, la semaine d'après, il va y avoir plein d'annonces. On va avoir toutes nos réponses dans les prochaines semaines.
Oui, c'est un peu frustrant. Ouais.
Mais c'était comme ça l'année passée. Mm-hmm. C'est comme ça l'année passée, puis qu'est-ce que vous voulez, le ministre des Transports, c'est comme ça depuis 3 ans. On apprend, puis pourtant c'est ça à quoi ça sert les transports. Là. Nous, on pose des questions en fonction du budget, des crédits budgétaires, puis on s'entend d'avoir des réponses aussi, plutôt que de se faire dire, parce que hier, là, la réponse était, ben oui, ça viendra. Mais ça veut dire, tu sais, je suis même pas en fin de période de crédit. Hein? on va attendre les prochains mois pour avoir les réponses.
C'est drôle parce que les gens de la CAQ disaient ça quand ils étaient dans l'opposition, de vous les libéraux. Ils disaient à peu près la même affaire.
J'ai jamais entendu ça.
Oui.
J'ai jamais entendu ça.
Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude Nichols.
Merci beaucoup, Antoine Robitaille.
Député de Vaudreuil et critique en matière d'affaires municipales et d'habitation.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
On assiste à une explosion du nombre d'étudiants internationaux collégiales depuis plusieurs années. Ça a des bons, mais aussi des mauvais côtés. On en parle avec Éric N. Duhem, chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Le N est important, hein?
Oui, effectivement, faut faire la distinction. Là, je suis pris avec l'existence d'une autre personne qui porte le même nom que moi, donc j'ai ajouté cette petite particule de mon nom de famille maternelle pour bien distinguer les personnes.
Vous êtes anobli d'une certaine façon, à plusieurs égards. Donc, le nombre d'étudiants internationaux vraiment au collégial, il a explosé, on l'a dit, 3520 en 2011, 16505 en 2019. C'est quoi? C'est 369% d'augmentation. Comment ça s'explique exactement?
Ben, il y a différents éléments qui entrent en jeu au niveau de l'augmentation des effectifs étudiants internationaux. On peut dire que la partie qui est la plus déterminante, là, c'est au niveau des collèges privés non subventionnés à Montréal. Donc, les collèges privés non subventionnés, dans leur cas, là, les effectifs étudiants internationaux sont passés de 338 à 5720. De 2011 à 2019. Donc là, c'est une augmentation de presque 1600%. Donc, c'est eux qui ont beaucoup joué dans la balance. Mais en même temps, on observe aussi, pour les cégeps de régions éloignées notamment, une augmentation des effectifs étudiants internationaux également. Donc, il y a, dans le cadre des cégeps de régions plus éloignées, un poids relatif, donc l'importance des effectifs étudiants internationaux qui est de plus en plus élevé. Là, tu sais. Donc, c'est 10% à peu près dans ces régions éloignées. Puis, dans certains cégeps, ça peut même représenter jusqu'à 35% là, des effectifs étudiants en 2019 qui étaient recrutés à l'étranger.
On pense évidemment au cégep de la Gaspésie et des Îles, qui a comme une espèce d'entente avec un collège privé à Montréal. C'est ça pour accueillir des gens? Je pense que c'est. Il y a un an, là, on a entendu parler de ça. On a commencé à avoir beaucoup d'articles sur le sujet, Radio-Canada, Le Devoir, et ils ont vraiment fait sortir cette drôle de bébite.
Oui, tout à fait. Dans le cas du cégep de la Gaspésie des Îles, il faut savoir que en région, donc dans leurs différents campus là, constitués en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine, là aussi, il y a des étudiants internationaux. Donc là, ils ont à peu près un poids relatif de 15%. Là, 15% des étudiants qui étudient là-bas sont des étudiants internationaux. Mais il y a aussi l'existence de cette autre entité, cet autre établissement qu'on appelle Campus de Montréal, qui, lui, est situé à Montréal. Donc, là, on est vraiment très loin de la région périphérique de ce sujet-là. Là. Donc, là, c'est une entente, c'est un partenariat entre un collège privé non subventionné qui s'appelle le Collège Matrix, puis le sujet de la Gaspésie et des Îles. Là. On a une espèce de partage de responsabilités là, entre les deux. Donc, Collège Matrix, lui, s'occupe du recrutement, du marketing, des locaux, des équipements. Puis, du côté du cégep de la Gaspésie des Îles, on s'occupe surtout de la formation, du suivi avec les enseignements, etc. Et donc, là, oui, effectivement, on a assisté à une explosion du nombre d'étudiants internationaux dans cet établissement-là. Là, qui était en 2019, on parlait d'autour de 1700 étudiants. Puis là, on aurait largement dépassé ce seuil-là là, l'année d'après.
C'est en février 2020 qu'on a pris conscience de ça. C'est avant la pandémie. Je me souviens que j'étais là au point de presse avec le ministre Roberge qui disait « on va serrer la vis ». Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis?
Pas tellement depuis, là, mis à part le fait que présentement, c'est sous enquête. Là, il y a 10 établissements qui sont sous enquête de la part du gouvernement du Québec. Là. Il y a aussi d'autres enquêtes là, plus sur des pratiques un peu abusives, là, de l'Agence des services frontaliers du Canada, puis aussi de l'UPAC même, qui s'est tournée vers certaines activités là, qui ont eu lieu à la commission scolaire Leslie Pearson.
Ah oui.
Donc, jusqu'à maintenant, non, il n'y a pas eu de resserrement, mais c'est sous enquête et il devrait y avoir des annonces. Là. On avait dit que ça serait au printemps. Mm-hmm. Donc, on verra quelles conclusions le gouvernement du Québec va tirer de cette nouvelle situation là, qui est en train de se dessiner là, depuis essentiellement 2017. Hein. C'est vraiment plus, c'est comme si les premières initiatives de recrutement là, à l'international plus intensives dans les collèges privés, ça a commencé en 2015, mais c'est vraiment à partir de 2017 là, où il y a une inflexion là, majeure là, du nombre d'inscriptions.
C'est un vieux rêve quand même, l'internationalisation de l'éducation québécoise. Je me souviens, moi, j'ai déjà écrit quand j'étais rédacteur, j'étais pas journaliste à l'époque, un document sur, c'était à l'époque, écoute, le ministre, c'était Sylvain Simard. L'internationalisation de l'éducation, c'était comme un rêve. Donc, est-ce que c'est un rêve dévoyé? Parce que vous dites qu'il y a deux tendances préoccupantes là actuellement.
Oui, c'est ça. Ben, c'est pas, je dirais que là, on est devant une dérive potentielle, là, une dérive commerciale à Montréal. Puis aussi, on voit, même en région éloignée, on voit prédominer des arguments qui sont d'ordre plus pragmatique, c'est-à-dire contrer les baisses d'effectifs étudiants, puis aussi parvenir à recruter là, des formations qualifiées dans certains secteurs clés de l'économie.
Ouais.
Donc oui, il y a une dérive à ce niveau-là. Le premier document produit par le gouvernement du Québec sur la question de l'internationalisation, ça remonte à 2002.
Oui.
Donc là, on voyait, ça s'appelait « Pour réussir l'internationalisation ». Donc, on voyait dans ce document-là, qui somme toute assez bref, quelques axes généraux, là, c'était pas juste le recrutement des étudiants internationaux, là, il y avait d'autres composantes comme intégrer des programmes à vocation internationale, la coopération internationale, favoriser aussi la mobilité des étudiants québécois vers l'étranger. Donc, il y avait un ensemble de composantes, mais on voyait déjà dans ce document-là une espèce de tension en deux visées distinctes, c'est-à-dire une première visée qui se voulait humaniste, on pourrait dire, en quelque sorte, donc une espèce d'ouverture sur le monde, une multiplication des expériences interculturelles, favoriser aussi le rayonnement des connaissances, la culture du Québec à l'étranger. Mais on voyait déjà aussi l'autre tendance, un autre discours, un contre-discours, où là, on misait sur davantage les intérêts économiques. Donc, intérêts économiques puis intérêts plus pragmatiques. Donc, cette idée qu'il y a à l'heure actuelle un marché mondial pour la formation à l'enseignement supérieur, puis que le Québec devrait se positionner puis parvenir à tirer parti de ce marché-là. Là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs années après, ben, les collèges privés non subventionnés, eux, ont très bien vu une occasion d'affaires récemment. Oui. Puis là, ça a littéralement explosé. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on voit les intérêts économiques puis les intérêts plus pragmatiques prendre le dessus sur l'autre visée qui était davantage humaniste. Puis ça, c'est un problème quand même, parce que pour faut jamais oublier que la mission première des établissements d'enseignement, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Donc, faut pas que ce genre d'objectif secondaire vienne compromettre la qualité des formations qui sont offertes.
C'est ça. Puis les effets collatéraux aussi, c'est l'anglicisation de Montréal, il faut le dire. Parce que c'est tout, plusieurs de ces diplômes-là rapides, ça se fait en anglais. L'enseignement se fait en anglais.
C'est ça. Ben ça, c'est une résultante, je pense, de ce que j'ai appelé une dérive économique là, actuellement à Montréal. C'est pas juste la question linguistique qui est importante, mais il y a un resserrement, en fait, assez généralisé là, des inscriptions autour de certains paramètres de plus en plus uniformes. Donc, oui, il y a la question linguistique. Donc là, c'est presque, d'après les données provisoires de 2019, là, c'est presque 55% des étudiants internationaux qui sont inscrits dans des établissements de langue anglaise, dont la formation est offerte en anglais. Mais il y a aussi de plus en plus l'explosion des formations courtes, donc des attestations d'études collégiales. Ouais. Puis de plus en plus aussi, ce qui est dominant, c'est les techniques administratives. Donc là, on serait à presque 60% là, des inscriptions qui puis, sont dans des techniques administratives.
C'est ça. Puis je comprends aussi que en vous lisant, c'est que ça coûte plus cher que ça rapporte. Donc, l'État n'est même pas gagnant.
Ben, c'est ça qui est pas toujours évident à calculer. C'est-à-dire que, bon, si pour les collèges privés non subventionnés, eux ont vu une possibilité de croître, de faire croître leur organisation, puis aussi de vendre à prix très élevé des formations. Là, ça va jusqu'à 25 000 $ par année. Puis aussi pour les firmes de recrutement, c'est une occasion d'affaires. Là, ils prennent quand même une grosse commission là, sur chacun des étudiants qui parviennent à recruter. Donc là, il y a l'air d'avoir une dimension assez lucrative du côté des collèges privés non subventionnés. Du côté du réseau public, des cégeps de régions éloignées, effectivement, on pourrait dire que ça coûte cher parce que ce qui est à la base ou ce qui stimule le fait pour les cégeps de régions éloignées d'aller recruter à l'étranger, c'est l'existence d'une enveloppe assez importante qui permet d'exempter les étudiants internationaux des droits de scolarité. Donc, ça représente 50 millions par année là, de mesures d'exemption là, au niveau du gouvernement du Québec.
Okay.
C'est surtout le réseau public qui tire parti de cette enveloppe-là. Mais cette enveloppe-là, il faut se rappeler quand même qu'elle existe pour des raisons qui sont extérieures au réseau collégial lui-même. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de relations internationales, dans le cadre d'efforts diplomatiques, que des ententes qui sont établies, par exemple, entre le Québec puis la France, où on dit que nos ressortissants, au niveau collégial, là, ça a changé au niveau universitaire, mais au niveau collégial, les Français qui viennent étudier ici sont traités de la même façon que les résidents du Québec et vice-versa. Mm-hmm. Donc, oui, ça nous coûte cher, mais en même temps, il y a l'inverse aussi. Il y a des étudiants du Québec qui vont étudier à l'étranger et qui sont traités de la même façon que les étudiants français, par exemple.
J'imagine qu'avec la pandémie, beaucoup de ces mouvements-là ont été stoppés. Là. Il doit y avoir moins d'étudiants étrangers au Québec.
Effectivement. Ouais, effectivement. Ben, là, nous, malheureusement, les chiffres auxquels on avait accès s'arrêtaient à 2019. Puis même 2019, c'était des données provisoires. Là, à ce moment-ci, on devrait être capable de mettre la main sur les chiffres de 2020, mais qui seraient des données provisoires aussi. Et là, forcément, on verrait une baisse d'effectifs étudiants internationaux. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui étudient à distance pour le moment dans l'espoir d'éventuellement venir ici sur place lorsque ce sera possible.
Ouais.
Mais pour certains cégeps de régions éloignées qui avaient misé beaucoup sur le recrutement d'étudiants internationaux pour pallier leur baisse d'effectifs, dans leur cas, là, c'est un peu la crise, là. Mmh. Des cégeps comme c'est le cégep de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Matane, par exemple. Là, on mise beaucoup sur le recrutement d'étudiants internationaux. Puis là, la baisse des effectifs avec la pandémie, là,
oui.
Ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans les journaux, là. Ça a entraîné un peu une situation de crise pour eux, là.
Vous faites 7 recommandations en terminant. Les plus urgentes sont lesquelles, selon vous?
Surtout le fait de, comme on en parlait tantôt, là, le document pour réussir l'internationalisation date de 2002.
Oui.
Donc, 20 ans, presque 20 ans plus tard, là, ce serait le temps, je pense, un peu de repenser la formule, puis de produire un document d'orientation stratégique assez clair, là, où on réitérait, par contre, de façon très importante, le fait que la mission première des établissements collégiaux, c'est l'enseignement. Donc, d'abord l'enseignement, ensuite si on peut parvenir à atteindre des objectifs secondaires comme contrer la baisse des effectifs ou aller recruter dans certains secteurs clés de l'économie, ça peut être compatible, mais faut s'assurer que la qualité de la formation est au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour les collèges publics, mais aussi pour les collèges privés non subventionnés, donc puisque les inscriptions sont ça explose complètement, là. On passe de souvent, là, quand on regarde les données, là, de quelques dizaines à quelques centaines à plus d'un millier d'étudiants dans l'espace de 3 ans. Donc, on peut quand même douter de leur capacité là, d'avoir des installations puis d'offrir une formation de qualité. Puis, pour les étudiants internationaux, c'est important là, pour que l'exercice soit réussi, tant pour eux que pour nous ici, que leur expérience d'études soit optimale. Donc, réitérer le fait que la mission première des établissements, c'est l'enseignement. Et ensuite, on peut essayer de poursuivre des objectifs secondaires, mais il n'y a aucun compromis qui doit être fait à la qualité de l'enseignement. Ça, c'est la première recommandation.
OK. Ben merci infiniment pour cet entretien, Éric N. Duhem.
Mais ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.